Bonjour, bienvenue dans notre émission Underscore sur notre chère Radio Méga. Le temps faisant son œuvre, je crois que cette fois j'ai encore un condensateur qui a claqué. Pas de panique, j'ai trouvé quelqu'un pour réparer mes circuits.
Bonjour Emmeman, bonjour Odoudou, bonjour Nedel.
Bonjour Cécile.
Salut tout le monde.
Et bonjour les auditeurs. Et oui, cette semaine, nous allons recueillir quelqu'un qui va nous parler de son activité principale. Brice nous parlera de sa société Wikay, qui s'occupe de réparer des ordinateurs et pas que.
Pas que. Et oui. Puis il fait des vidéos aussi. Donc on aura l'interview tout de suite, mais après. Tout de suite, mais après.
C'est ça. Mais avant, un peu d'actualité alors.
Eh ben oui.
Mais alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la disparition de George Schilling. Il était l'auteur de nombreux outils pour Solaris et GNU Linux, et notamment CD Records et toute la suite de CD Air Tools.
Une lettre ouverte de 59 organisations contre la loi Drone 2. À l'appel de la Quadrature du Net, près de 60, peut-être plus maintenant, organisations affirment leur opposition à la légalisation des drones à surveillance de la population.
On a le droit de décompiler une application pour corriger un bug. C'est la CGU qui le dit, d'après plus de 10 ans de procédure.
Le projet ScumVM célèbre ses 20 ans. Ce projet rassemble plusieurs moteurs de jeux vidéo vintage pour retrouver les sensations d'autrefois sur des OS libres et des machines plus récentes.
Le musée Replay lance une cagnotte pour sauver sa collection. En Gironde, cet assos n'a pas pu tenir les expositions et nécessaires à leur maintien dans leur local actuel.
Framasoft lance sa campagne de dons. Frama, c'est pas que des pads.
Alors... Ah bon?
Non.
Alors,
non, non.
Pour cette campagne de dons, ils vous présentent l'ensemble de leurs actions sous forme de cartes à collectionner, dessinées, comme d'habitude, par David Révois.
H2G2 à 42 ans, ok, mais sinon, quelle est la question ?
LQDN appelle l'Union Européenne à ne pas céder au lobby sécuritaire et met donc en garde contre le projet de texte sur l'intelligence artificielle de l'Union Européenne présenté par Margaret Vestager, qui veut en réalité favoriser le développement tous azimuts de l'IA, notamment ses...
C'est tout pour l'actualité, on écoute Ansi Strain pour après le sujet du jour avec l'interview de Brice. A tout de suite. C'est Strain de Ansi. Finalement, c'est son premier album Fragment. It's a real bouillabaisse mixé avec genre style, comme il dit. Passons au sujet du jour, le droit à la réparation. Mais on t'écoute pour présenter le sujet.
Et nous accueillons Brice Véry, qui a sa petite entreprise Wikis, pour parler de réparabilité sur Apple surtout, mais pas que. Et puis en plus, on est presque dans les temps pour le World Repair Day, puisque c'était la semaine dernière. Bonjour Brice.
Bonjour à vous Mimen.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, nous dire un peu comment tu es arrivé à charcuter des MacBooks devant une caméra? Voilà. Est-ce que c'était pour imiter Louis Rossmann?
Alors, on va répondre à ça juste après, mais d'abord, oui, il y a une présentation à faire. Moi, c'est Brice Véry, lyonnais, né dans les années 1980. J'ai commencé d'abord dans l'audiovisuel. J'ai fait mes études de post-bac dans l'audiovisuel parce que ma passion, c'était avant tout le cinéma, en deuxième l'informatique. Et puis, quand j'ai vu que je n'arrivais pas à vivre du cinéma, j'ai bifurqué en 2011 dans une école d'informatique en alternance où j'ai pu obtenir un diplôme sur les compétences que j'avais déjà qui étaient assez solides. Et puis, j'ai travaillé un peu et en 2014, j'ai mis un pied dans la tombe, c'est-à-dire que je suis entré chez un réparateur agréé Apple. Et oui, oui. Là, du coup, j'ai commencé à voir le monde côté Mac. Et puis, je faisais mon boulot là-dedans de réparateur agréé et puis de dépannateur pour les sociétés, pour les professionnels. Puis en 2016, je me suis marié avec ma femme, que je connais depuis le bac. Et on a fait notre voyage de noces au Québec et on a fait un petit tour par New York à la fin. Et j'ai rencontré Louis Rossmann, en fait, sans le faire exprès. En me baladant, j'ai vu une échoppe qui ne payait pas de mine, où c'était marqué Louis Rossmann Repair, et il y avait un MacBook en boutique. Et j'ai dit, ah bah tiens, c'est drôle comme chez à New York, il y a un peu de tout et de rien. N'importe qui peut réparer du Apple. Je trouvais ça bizarre parce que moi, j'étais vraiment dans l'embrigadement d'Apple. C'est-à-dire que pour moi, Apple, c'était seulement les Apple Store et les centres agréés, point barre. Et
sinon, les garanties ne tiennent pas.
Oui, il y a un peu de ça aussi. Hein. On fait peur sur une question de garantie, alors qu'en fait, pour que la garantie soit annulée, il faut vraiment qu'on prouve que l'appareil a été cassé par autre chose que nous-mêmes. Mais du coup, voilà, je ne rentre pas. Et YouTube, au moment d'embarquer dans l'avion, me propose une vidéo de ce type. J'étais passé en bas de sa boutique et il me propose une vidéo de ce type que j'avais déjà vu auparavant, en fait. Il avait juste dézingué les MacBooks qui étaient sortis en 2016 et j'avais trouvé ses arguments très pertinents comparé à tous les autres clopins sur YouTube qui disaient « Oh, c'est vraiment excellent, regardez cette finesse, tous les ports sont pareils, c'est génial !» Et Louis Rossmann avait le soin de dire que « Ok, tous les ports sont pareils, mais ça apporte beaucoup de défauts à la machine. » Il a expliqué pourquoi, et j'ai trouvé qu'il avait des bons arguments. Mais là, la vidéo qu'on m'a proposée, c'était une vidéo où il charcutait un MacBook avec différentes glues, enfin des choses que je ne connaissais pas du tout, avec des machines. Il enlevait les pièces, il en mettait.
On et appelle
il faisait
ça des flux,
réparer une machine. Oui, et, mais pour moi, à l'époque, c'était rien, quoi. C'était de la gelée. Et j'ai eu une épiphanie en voyant ça, puisque, en effet, les pièces que moi, je trouvais non réparables parce que c'était un défaut de carte mère, parce que chez Apple, on ne répare pas, on remplace. Savoir que c'était en fait réparable et facilement réparable, ça m'a fait un coup de couteau dans le cœur comme si j'avais menti pendant des années aux gens parce que je ne disais pas la vérité. Et en fait, j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos où ils détaillent comment on ouvre les MacBooks, comment on les répare, comment fonctionne l'électronique. Des cours basiques. Hein. Ça m'a donné l'idée de quitter ma boîte et de monter la mienne. Donc du coup, je fais de la réparation basique et je fais de la maintenance informatique pour les professionnels, mais j'ai une partie d'atelier, comme Louis Rossmann, où j'ouvre complètement la machine, je regarde l'intérieur, je regarde ce qui est cassé, et en avant-guingant, on gèle le matériel et on change les pièces. Voilà. Et du coup, avant de faire des vidéos et de me former, j'ai mis un an à manger ces vidéos et à manger des tutoriels sur Internet pour l'électronique. Et en 2018, je tombe en mars sur Chocoboz, le développeur de PeerTube, qui est une alternative libre à YouTube. Et je me mets à avoir une instance. Je crée ma propre instance sur la première bêta en fait, de PeerTube.
T'es un pionnier,
an plus tard, j'avais comme... Pardon ?
T'es un pionnier ?
En France, peut-être, sur PeerTube, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres YouTubeurs français sur le domaine qui sont arrivés en fait au même temps où je lançais mon entreprise. Donc en fait, je suis pas arrivé en premier sur YouTube, mais sur PeerTube certainement. Et voilà, du coup, un an plus tard, en 2019, mars 2019, je postais ma première vidéo où je montrais comment réparer une NES, la première Nintendo de Nintendo. Et petit à petit, je me suis mis à faire des lives sur Twitch parce que PeerTube ne le permettait pas encore. Et je me mettais en direct en train de réparer les ordinateurs. Et au fur et à mesure, j'ai des vidéos et j'ai commencé à monter vraiment ma chaîne PeerTube un an plus tard avec des vidéos et ensuite avec des lives pour montrer que, en fait, quand Apple dit qu'il faut changer la carte mère, non, il faut réparer la carte mère et c'est possible, mais Apple ne le sait pas le faire.
Je pense qu'il y a aussi une histoire économique. Hein, imagine-toi, en fait, tu compares ça à Noroto qui va remplacer que quelques pièces dans ta voiture. Il y a une raison strictement économique qui fait qu'Apple ne va pas tout réparer. Il va remplacer pour gagner du temps.
Gagner du temps, oui, gagner de l'argent surtout, parce qu'en fait, la pièce détachée, quoi, la pièce défectueuse qu'ils gardent, ils ne vous la rendent pas, la pièce défectueuse, eh bien, ils l'emmènent en République tchèque pour ce qui est de l'Europe, chez Pegatron, et Pegatron a 15 minutes pour réparer la carte mère, et s'ils y arrivent, elle va servir à un autre client comme étant une carte mère neuve.
Ah oui, donc en fait, ils disent, donc, elle est pas réparable,
mais ils la réparent.
Elle est réparable, mais on va la vendre à quelqu'un d'autre.
Exactement.
C'est filou, ça ?
Oui. Un beau système. Ouais.
Alors du coup, comment tu fais, comment tu t'y prends pour faire ces réparations, quels sont les obstacles pour arriver à réparer ce genre de bestiole?
Alors en fait, l'électronique, c'est une science exacte. C'est-à-dire que il y a des lois qui régissent l'électricité, il y a des lois qui régissent le fonctionnement d'un composant, et il y a des règles. Et du coup, c'est une science exacte. Et quand une machine ne marche plus, c'est qu'elle a un problème quelque part, et là, on lance le travail de détective sur plusieurs points. C'est-à-dire que le premier, c'est on va essayer de regarder si on a les schémas techniques de la machine. C'est une carte qui nous indique à quel endroit le rail de courant va et quel courant dans quelle puce elle va, quel courant la traverse, pour savoir comment fonctionne le clavier, comment fonctionne l'alimentation, comment fonctionne le son, comment fonctionne le processeur. Et de là, on va réparer les circuits. C'est vraiment super intéressant. Moi, je trouve que ça me plaît beaucoup. Je me suis mis plusieurs fois à la programmation informatique sans jamais réussir à faire quelque chose. Mais sur la réparation, c'est comme le vélo. J'ai l'impression d'avoir trouvé le rythme, le protocole à suivre. Et c'est vraiment instinctif. Une fois qu'on a le truc, c'est vraiment comme une drogue. On fait un jeu de piste et on essaye de gagner. Et quand on gagne, c'est vraiment un soulagement. C'est vraiment extasiant de pouvoir réparer une machine qui ne marche pas. Donc en clair, grâce au schéma technique, quand je vois une puce qui a grillé ou quand je vois une puce qui fonctionne mal, je regarde dans le schéma technique quel est son nom, quel est son fonctionnement. Et je vais ensuite sur Internet, taper le nom de code de cette puce, acheter une neuve du coup, et je la remplace avec du matériel. Donc je prends une souffleuse à air chaud, je prends un fer à souder, j'ai un aspirateur de fumée parce que tout ça c'est toxique bien évidemment, je mets des gants, et on envoie de l'air chaud sur les composants, ils se dessoudent, on les enlève, on répare les pads, on les remet, et on essaye de voir si ça fait avancer le schmilblick.
Alors dit comme ça a l'air facile.
C'est dans un monde idéal.
Dire comme ça, ça a l'air facile, parce qu'effectivement, tu as aussi la difficulté que les composants sont extrêmement petits, et en plus, des fois,
j'ai oublié de parler de ça, il faut un microscope, bien sûr.
Oui, et tu as des composants aussi qui sont sous d'autres composants. Comment tu fais ?
Ah bon, des composants sous d'autres composants ?
Oui, enfin, je veux dire, oui, il y a des fois où quand tu as les cartes mères, par exemple, des iPhones, je veux dire...
Ah oui, les cartes mères des iPhones, et c'est tellement petit, tellement rapproché que il faut vraiment faire de la véritable minutie. Et même maintenant, les iPhones actuellement, ils sont en double couche, c'est-à-dire que avant de voir quelque chose, il faut déjà dessouder les deux couches ensemble pour avoir une sorte de papillon ouvert et de voir tous les composants. Oui. Ou alors ils sont derrière sous des boucliers, il faut d'abord enlever le bouclier, puis ensuite on a accès aux composants. Ouais.
C'est extrêmement délicat comme travail.
Oui, oui, oui. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est dans le meilleur des mondes, c'est là quand j'ai un schéma technique de l'appareil. Il arrive que sur certains PC, parce que je ne fais pas que Mac, sur certains PC, je n'arrive pas à trouver sur Internet les schémas techniques de cette machine. Et donc là, c'est encore plus du Sherlock Holmes. je dois vraiment dire « Ah ben ça, c'est une sorte de circuit que je reconnais, je vois où est-ce qu'il y a de la brûlure, où je vois quelque chose de la corrosion, quelque chose qui a brûlé. » Et de là, j'essaye de voir à quoi sert ce circuit et comprendre quelle est cette puce pour retrouver un équivalent. Et c'est beaucoup plus difficile sans schéma technique. C'est vraiment travailler un peu les yeux bandés. Donc ça, c'est quand j'ai commencé en 2017. Le problème, c'est que depuis 2008, Apple, et un peu tout le monde, commence à mettre des petites pièces qu'on ne peut plus changer dans les ordinateurs. Donc ça commence par une petite puce un peu importante qui est le SMC. Cette puce-là, elle est faite par Texas Instruments. Je peux en commander sur Internet, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas programmée. C'est une puce qui a un programme à l'intérieur. Le problème, c'est que j'ai besoin du programme pour pouvoir la déposer dans une carte mère Apple. Et Apple a décidé depuis 2008 de mettre des SMC avec une bombe à l'intérieur. C'est-à-dire que quand j'essaye de lire le programme qui est contenu dans cette puce, vu que je ne connais pas son véritable fonctionnement parce que c'est une puce un peu spéciale, je vais brûler la mémoire. C'est-à-dire qu'en tentant de lire, je vais la brûler et elle ne fonctionnera plus du tout. Donc en clair, je ne peux pas réparer le SMC normalement. Mais les réparateurs sont un peu des filous et ils trouvent des ruses de sioux pour arriver à leur fin. Comment je fais pour réparer un SMC d'une carte mère de MacBook qui est morte? Eh bien, je trouve une autre carte mère de MacBook morte qui n'a pas le SMC de mort. Je l'éjecte, je la remets un peu à neuf et je la réapplique sur la carte mère qui a besoin d'être réparée. Et boum, ça marche. Parce que le programme de ce SMC est encore bon. Voilà, et en fait depuis 2008, chaque année, Apple commence à mettre des petites pièces comme ça qui m'empêchent de réparer la machine.
Par exemple, les choses à reconnaissance comme les Touch ID, les Face ID, toutes ces puces-là qui servent à la reconnaissance sont rebelles pour toi ou tu as trouvé des parades?
Rebelle, absolument rebelle. C'est-à-dire que depuis l'instigation de cette nouvelle fonctionnalité de sécurité, Apple a posé une puce qui s'appelle T2 dans ses machines. Et cette puce-là, je ne peux pour l'instant pas la changer. On est en train d'élaborer un système pour pouvoir changer cette puce. Donc on est encore en état de proof of concept de ça. Mais à terme, peut-être que dans un an, on pourra changer les puces T2 des machines affectées. Ça nous ferait un grand bien. Mais en clair, la puce T2, elle a dans sa mémoire le numéro de série du Touch ID, le numéro de série du SSD et le numéro de série de l'écran. Donc en clair, si jamais je veux changer un Touch ID, il faut que je change la puce T2, mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc si Touch ID est mort, du coup, on remet un Touch ID, mais il ne servira que de touche. Il ne pourra pas servir d'empreinte digitale.
Oui, il faut savoir que c'est associé à la carte mère.
En fait, oui, c'est ce que tu as dit. Apple s'est mis à sérialiser, c'est-à-dire à mettre des numéros de série à l'intérieur des pièces, d'un point de vue informatique. Et donc, en fait, quand tu vas aller changer la caméra sur un iPhone, en fait, sur le dernier iPhone notamment, qui pourtant a une note de 6, je ne sais plus combien sur 10 sur l'index de réparabilité français, lol. On aurait pu en parler, mais je crois qu'on va juste... éluder la blague, alors que c'est si tu arrives à en trouver, parce que Apple va pas forcément te vendre la pièce, mais si tu arrives à la trouver, et le téléphone il va juste refuser de s'en servir, alors qu'en fait c'est une vraie pièce Apple originale quoi.
Mais pire que ça, du coup, sur la carte mère, si la T2 a un coup de Trafalgar, j'ai quelques petits outils pour essayer de la reprogrammer, de la remettre en état à zéro, mais quand elle est vraiment défaillante, c'est foutu. Je dois m'arrêter là, la carte mère ne sera pas réparée pour l'instant. Et pareil pour le disque dur, c'est-à-dire le disque dur qui est soudé dans le MacBook, ok, je ne peux pas le changer, mais quand le SSD grille, une des puces du SSD grille, c'est foutu, je ne pourrai pas le remplacer parce que les puces sont sérialisées, et du coup il faut changer toutes les puces et changer la T2, enfin bon c'est une ignominie, c'est-à-dire qu'en fait quand le SSD grille, je peux réparer l'ordinateur, il va s'allumer, mais il ne va lancer aucun système d'exploitation parce que la T2 ne trouve pas le SSD. Comme il ne trouve pas le SSD, il ne va pas lancer le système. C'est foutu. On s'arrête là.
Alors on arrive
merci d'avoir joué.
Et ouais, du coup, on arrive au combat sur le droit à la réparation parce que quand même, c'est des choses qu'on a achetées qui coûtent cher et on vient nous dire « Ah mais oui, mais en fait, non, on ne peut pas... » Et voilà, donc il y a effectivement un mouvement, surtout aux US, qui commence à arriver, quoi, le « right to repair », le droit à la réparation, la réparabilité. Donc ça commence à avoir une petite notoriété, même si bon, c'est vrai qu'il y a des gens Moi, je me rappelle, ça fait 20 ans hein, que je dis que c'est pas normal que ce soit pas réparable, les choses. Mais bon, moi, j'ai pas l'audience d'un Louis Rossmann. Mais du coup, ça, quand même, voilà, ça commence à prendre. Il y a même Linus Sébastien, donc la chaîne YouTube Linus Tech Tips, c'est dur à dire. Hein. Oui, il a quand même 14 millions d'abonnés. Et ben lui, il s'est mis aussi à défendre publiquement le droit à la réparation. Il y a Steve Wozniak aussi qui a dit, qui a fini par dire quand même que si Apple avait pu commencer, c'est parce qu'il avait pu étudier les schémas des autres machines, qu'il avait pu utiliser des composants et que les docks étaient ouvertes et tout, quoi.
Oui, de toute façon, entretenir l'espérantisme ne va pas nous aider à améliorer le côté réparable, hein, et l'écologie qui va avec.
Eh ben, après, oui, tout l'environnement. Donc, est-ce que tu penses qu'on arrivera un jour à retrouver ce qu'on avait il y a 40 ans, en fait ? Parce que les schémas des poches de radio à tube, ça se trouve encore.
Oui, oui. Alors moi, je pense que toute cette folie autour de commencer le right to repair, c'est super, et je pense qu'on va l'avoir. Moi, je pense que d'ici 5 ans, ça sera déjà acté, signé, et que Apple devra se contraindre à un certain nombre de règles pour qu'on puisse réparer les machines. Mais je pense que l'année d'après, c'est-à-dire dans 6 ans, je pense qu'Apple aura déjà trouvé la parade pour contourner les règles qui ont été demandées dans le right to repair. Et qu'on va être abusé de nouveau. Moi, je vois la chose comme ça. J'imagine très bien que Apple va nous autoriser à changer l'écran du MacBook. C'est-à-dire qu'en fait, si je change l'écran d'un MacBook actuellement, qui date depuis 2018, il va marcher, mais il n'aura pas la fonction True Tone, qui est une fonction assez sympathique, qui change la balance colorimétrique de l'écran suivant ce que le capteur d'ambiance a comme lumière. Et du coup, si je change l'écran, bah, du coup, je vais donner un écran au client en lui disant, bah voilà, j'ai réparé votre MacBook, voilà l'écran, il faut payer pour l'écran, mais il n'a pas toutes les fonctionnalités.
Donc si vous êtes graphiste, vous pouvez aller vous faire voir, quoi.
Voilà. Donc, si jamais Apple est contraint par le droit à la réparation de nous donner la possibilité de changer nous-mêmes les écrans et d'avoir de quoi modifier la puce T2 pour lui dire le numéro de série de l'écran a changé, voilà le nouveau, eh bien je pense qu'Apple va nous facturer une machine pour faire ça, 3 500 € ou plus, un beau chèque à lâcher pour ça, et qu'en plus, pour faire les réparations indépendantes chez Apple, il faudra créer un compte chez Apple, et un compte bien sûr contraint à un abonnement, je pense à 700 € l'année par exemple, ce qui veut dire qu'un réparateur indépendant doit un peu casser sa tirelire s'il veut pouvoir réparer du matériel Apple.
C'est un petit peu comme
avoir le matériel, le droit.
C'est un peu comme le garagiste qui doit acheter chaque valise de chaque modèle de véhicule pour pouvoir diagnostiquer les réparations.
Ouais, même pour faire la vidange, il faut dire à la voiture que tu vas faire une vidange, c'est pas mal quand même. Ah là là. Mais ouais, effectivement, c'est... De toute façon, donc, ils ont tendance à toujours effectivement trouver une parade,
une
même
parade
au niveau législatif, hein, parce que souvent la loi passe, tu dis ouais c'est pas mal, puis en fait au bout d'un moment tu dis mais en fait pourquoi il y a cette clause dans tel article machin, ah oui d'accord, en fait c'était pour ça, donc ouais.
Et on se fait bidonner, ouais. Mais j'espère que il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est l'élan que ça va fournir chez les futures générations. Les gens qui sortent d'école d'ingénieur et de conception qui vont se dire ben non, en fait, il faut que le produit soit réparable, il faut qu'on donne les schématiques. Peut-être que les produits seront moins méchants avec nous. Peut-être qu'il n'y aura plus ce genre de sécurité. Je ne sais pas. Faut peut-être espérer ça.
Il y a du boulot.
Sensibiliser, oui.
Ouais, il y a du boulot. Hein. Oui. Le Novo, par exemple, ils s'en fichent. Hein. J'ai pondu tout un long article sur ça. Ils m'ont même pas. Enfin, si, ils m'ont demandé 15 fois le numéro de série de la machine que j'avais déjà renvoyé. Enfin, bon. Mais ouais.
J'ai vu le fil Twitter, je pense vraiment que tu as affaire à un robot.
Oui, je pense aussi.
Vraiment face à un robot qui ne parle qu'avec des numéros. Il veut ton numéro de série de machine pour pouvoir t'aider.
Et pourtant, voilà, c'est une machine que j'ai. Enfin, si c'est une machine que j'ai achetée, je dois pouvoir la réparer, quoi. Et la réparer correctement. C'est pas un droit en l'air comme ça, quoi.
Oui, moi, je pense que c'est carrément un droit universel. Hein. Vraiment, on doit posséder les choses que l'on achète, sinon ça doit marquer être location dessous, quoi, clairement.
On est d'accord, ouais. Peut-être que, ouais, effectivement, obligé de faire des choses réparables aussi, ça les rendra peut-être un peu moins périssables. Peut-être les constructeurs se mettront, par exemple, à mettre les condensateurs un peu moins loin des pièces qui chauffent dans les télés.
La grosse difficulté, c'est que là, tu ouais, c'est en contradiction avec ce qu'on vit en ce moment avec la pénurie des composants, ce qui oblige aussi les constructeurs à moins produire. Ça leur fait bizarre, hein.
Oui, oui, c'est sûrement une mauvaise chose.
Mais moi, je pense pas que ça va changer les mauvais designs, qu'ils soient volontaires ou involontaires des schémas techniques. Hein. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas pensé que poser un condensateur à cet endroit-là, il va chauffer, donc il va mourir plus vite. Mmh. Ou poser tel type de condensateur, il va mal vieillir dans le temps. Moi, je pense que clairement, c'est l'impact du cash qui a pris le pas sur la bonne réputation d'une marque. Avant, on disait, bah, écoutez, moi, j'achète que du Sony, car c'est vraiment durable. Voilà, ce Walkman, je l'ai depuis tant d'années, la téléviseur aussi, la chaîne Hi-Fi aussi. Pourquoi tu vas acheter chez Bang & Acouphène ? Ça vaut rien, quoi. Par exemple. Mais en fait, je pense qu'il y a quelqu'un dans l'industrie qui a donné le là, en fait, de la perte de propriété du bien du client. Et c'est venu d'une manière si lente et subtile que le consommateur s'en est même pas rendu compte. Désormais, c'est ancré dans sa tête. Quand j'achète, moi, le client, il dit, bah voilà, j'ai acheté le dernier Samsung Galaxy, je suis content, je vais le tenir 2 ans. Et puis, si dans 2 ans, il se met à moins bien fonctionner, bah, je change pour le nouveau Samsung Galaxy. Ouais. Voilà. J'ai rien contre Samsung, hein. C'est juste que je connais beaucoup de gens qui changent le Samsung Galaxy tous les 2 ans, alors que certains peuvent tenir 3, 5 ans sans avoir de défaut, quoi.
Oui, bah après, il y a tout le marketing aussi.
Ouais. Moi, j'ai mon iPhone, là, je l'ai acheté en 2017, l'iPhone SE, le 5SE, c'est le dernier bon iPhone pour moi. Et je l'ai réparé, je l'ai changé de sa batterie 2 fois, son écran aussi 2 fois, il marche encore, il est encore à jour. Il est hors de question que j'aille acheter un iPhone, que ça soit du 6 ou à l'iPhone 13 actuel. Pour moi, c'est non, parce qu'il n'y a pas eu de réels progrès qui ont été faits sur la réparabilité. Au contraire, tout a été refermé de plus belle. Donc, l'iPhone, c'est hors de question pour moi actuellement. Voilà. Donc, si jamais mon iPhone SE claque, c'est un autre constructeur. Pour l'instant, j'ai acheté le Fairphone. Je ne suis pas satisfait du tout, mais je suis ravi de l'avoir parce qu'au moins, je le teste et j'ai envie que ça devienne mon futur iPhone, en fait.
Et alors, ouais, on a parlé de l'indice de réparabilité. On en parle ou juste on est tous d'accord que c'est une vaste blague?
Oui, c'est vraiment une très bonne idée, mais extrêmement mal mise en place, donc en fait une vaste blague. Ouais. C'est vraiment un sacré pipeau, parce que quand le premier à l'avoir fait, en toute bonne foi, on va dire ça comme ça, en se faisant guise de chevalier blanc, c'est Apple. Le premier à avoir lancé ça, sitôt que la France a dit « on va lancer l'indice de réparabilité », il y a eu l'article sur le site spécialisé Mac disant « ah ça y est, Apple nous a gratifié de l'indice de réparabilité de certains iPhones et de certains MacBooks ». Et j'ai lu et je suis tombé des nues, quoi. On ne peut pas mettre un score aussi haut alors qu'il n'y a que Apple et ses partenaires qui peuvent réparer la machine. Et en plus, ce n'est pas réparer, c'est
remplacer.
C'est vraiment remplacer les pièces. Oui,
oui, bah c'est comme, il y en a, pour certains, changer la batterie, c'est la réparation. En fait, c'est juste de la maintenance, quoi. Alors, si on veut voir ton travail, est-ce qu'on peut te suivre? Donc, tu l'as dit sur Peertube, bien sûr, on mettra le lien sur le site de l'émission.
J'ai une adresse Peertube, et puis sinon sur les réseaux sociaux, j'ai un compte chez le mastodonte de Framapiaf.
Ah, comme
Wikis.
Nous.
Mais oui, wikis@framapiaf.org. Et du coup, vous pouvez me contacter dessus. Voilà. Mais sinon, j'ai un site web aussi. Vous pouvez montrer mon site web sur lequel il y a une page contact. Mais le site web est un peu plus axé sur la maintenance informatique pour les professionnels, pas vraiment pour la réparation en atelier.
Ah, on me dit dans l'oreillette que tu as aussi une page Facebook.
Ah bon ?
Alors oui, j'ai perdu un pari avec ma femme. Et c'était si je gagne, je reste hors de Facebook. Si je perds, c'est je crée une page Facebook à la guise de mon entreprise.
Et donc tu as perdu.
Du coup, j'ai perdu. Ouais. Et j'ai arrêté de l'alimenter puisque il y a eu encore des gros scandales. En fait, chaque année, il y a toujours des gros scandales sur Facebook. Et du coup, le dernier article que vous voyez, c'est moi qui répare une Switch. et du coup, c'est quoi, l'an dernier, je crois, j'ai plus posté depuis. Mais j'y vais de temps en temps pour voir si on ne m'a pas contacté. Mais vraiment, n'allez pas sur Facebook, quoi. Vraiment, même vous, pour vous-même, n'y allez pas, quoi.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci.
De rien.
On regardera tes prochaines vidéos. On attend avec impatience.
Et on se retrouve tout de suite après pour l'agenda.
Yeah.
Star Child Cube. Donc c'est une musique qui est sortie d'une démo texte. Voilà.
Mais c'est très sympa.
C'est ça. On passe à l'agenda ?
Eh ben oui.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Rodoudou, qu'est-ce qu'on a ?
Enfin la reprise au load. Venez discuter bidouille électronique, programmation domotique, SDR, IoT, réparation au laboratoire ouvert Ardèche Drôme.
Oui, qu'est-ce qu'on est content ?
Le 26 octobre 2021 de 18h à 22h à l'IUT de Valence. Salle C112, premier étage.
Ouais.
Mais être belle, là.
Moving out, entraînement et tournoi jeux vidéo. Oublie les gros muscles, ramène surtout ton cerveau, forme la meilleure équipe de déménagement pour affronter d'autres équipes dans un jeu complètement déjanté. Tes nerfs et tes capacités seront à rude épreuve dans les missions toujours plus folles et périlleuses. Moving out, le jeu qui déménage. La médiathèque de propose des séances d'entraînement et constitue des équipes de 4 joueurs qui s'affrontent lors de ce tournoi pour décrocher la victoire. Pour les 10 ou 18 ans, sur inscription, du mardi 26 au samedi 30 octobre, dans différentes médiathèques de Valence.
Permanence d'aide aux démarches administratives en ligne. Vous rencontrez des difficultés pour remplir un dossier administratif, les dépanneurs, dépanneuses du Cause Toujours sont là. Ils vous aideront à remplir et compléter les dossiers administratifs, papier et ou numérique. Impôts qui a fait tout ça. Et puis effectuer vos demandes et démarches administratives, rédiger les courriers administratifs divers et prendre un rendez-vous aussi en ligne. Tous les mercredis de 9h30 à 11h, c'est Cause Toujours, 8 rue Gaston Ré à Valence.
C'est même 8h30, hein, ils sont... matinale. Ah initiation bah oui. À la facilitation graphique. Venez vous initier à la facilitation graphique avec Adélaïde. C'est une chouette méthode pour mieux mémoriser. Il y aura des séances de perfectionnement en novembre et décembre. Donc c'est pour adultes et enfants avec leurs parents le 27 octobre à 18h30. Toujours au Cause Toujours, 8 rue Gaston Ray à Valence.
À la découverte d'Open Food Facts, cet atelier propose de découvrir la base de données contributive. En mettant la main à la pâte, après une présentation de la base de données du collectif, les participants sont invités à manipuler les données par petits groupes, puis de proposer leur data visualisation alimentaire. Donc c'est sur inscription à partir de 15 ans, le 29 octobre, 17h à 19h, à la médiathèque du Bachu à Lyon.
Inertia Demo Party 2021. Déjà 20 ans pour cette Demo Party, qui ne sera pas en ligne, mais néanmoins accueille les participants selon les coutumes sanitaires locales. C'est les 30 et 31 octobre, Academia Dramatica Familia Lisbonne, en Portugal.
Et puis du lien à des liens, alors qu'est-ce qu'on a ?
Eh ben, la chaîne PeerTube de Wikiva, bah oui. Évidemment.
Bien sûr, mais belle.
Un site à peu près fiable pour récupérer des manuels de service.
Le site des Repair Café.
Le manifeste de la réparation.
L'initiative européenne pour le droit à la réparation, ils ont un site aussi.
Mais...
en vidéo, Steve Wognak défend le droit à la réparation.
Le Repair Wiki.
FAQ, Trouble Chatting on Repair on Consumer Electronic Equipment.
Et enfin, le t-shirt Schematics or Die de Louis Rossmann. Mais le problème, c'est qu'il est en rupture. Sinon, je l'aurais déjà commandé.
J'imagine. En tout cas, si vous voulez retrouver tous les liens, ils sont sur notre site underscore.radio.fm.
Astrologique ?
Qui frotte la boule ? Sysadmin, les vélanes, c'est du flan ?
Macounet, si Apple créait un réseau social, y trouverait-on des contenus complotistes ?
Technophile, c'est les nouveaux. Non, c'est lavé avec Myrlène.
Codeur, je suis comme un Didi, je fais des compiles.
Graphiste, à un certain point, je pixelise.
Réparateur, crouchi, 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 crouchi. Lami, lami, lami des tournevis. Tourne le boulon,
le boulon tout rond.
Et je chanterai des chansons.
Tu vois que tu la connais celle-là.
Ah, énorme, énorme. J'adore la compote. Sur ce, les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. N'hésitez pas à la réécouter en podcast, sinon sur Radio Méga, le dimanche à midi 10 et en rediffusion le samedi d'après, la midi 10 aussi. À très bientôt, les amis. Bye bye.
Bye bye.
Ciao.
Salut.